Hop, hop, bonjour, bonjour, ici c'est Valérie Demont. Je vous prends 2 minutes avant l'écoute de votre podcast pour vous parler du workshop Leadership Conscient. Il s'agit d'une journée pour acquérir ses propres outils et repartir avec dans une série d'expériences que vous allez faire. Donc je vous propose de vivre une dizaine d'outils du leader conscient, dont certains sont des fondamentaux du leadership conscient, comme la gouvernance intérieure. Et puis d'autres sont des atouts comme la relation au temps, l'activation de toutes nos intelligences, dont l'intelligence du cœur. Sur mon site, il y a la liste complète de ces outils. Vous vivrez les outils dans votre corps, votre cœur et votre cerveau, tels que 2 outils pour la gouvernance intérieure, 2 outils qui permettent d'obtenir des angles de vue différents et des changements de perspective, 2 outils pour de la bascule mentale. On va expérimenter de la pleine présence et conscience, rythme, temporalité et temps créatif aussi. C'est très, très important, en fait, cette notion du temps en ce moment. Les outils subtils, dont l'intuition et l'intelligence du cœur. Là, on en aura 3. Et puis, la capacité à faire des liens entre les différents univers. Et puis là, ce sera 2 outils qui seront expérimentés. Vous repartez avec les protocoles de ces exercices et ceux que vous choisissez de pratiquer et intégrer dans votre vie. On se retrouve ensuite un mois après pour débriefer, échanger avec les autres participants, s'enrichir des expériences de chacun pour voir en fait comment ces outils se sont posés dans votre quotidien et puis je vous donnerai du feedback s'il y a besoin d'amélioration. Si vous avez envie d'intégrer du cœur et le cœur dans votre entreprise, je vous invite à consulter le programme détaillé du workshop et vous inscrire et profiter aussi du Early Bird. Vous trouvez tout ça sur mon site valeriedemont.ch, l'onglet Leader et puis Workshop. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et en attendant, bah, je vous laisse à votre épisode et je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite.
Et donc, c'est ça le businessman ou la businesswoman du 21e siècle. C'est un être qui est relié à son cœur et à son corps. Les 3 C, cœur, corps, cerveau.
Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre sans cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Romain.
Bonjour Valérie.
Merci beaucoup de prendre ce temps, ce moment pour partager ton expérience, ta vision de la vie aujourd'hui, ton chemin, ta transition vers l'éveil, en tout cas une forme d'éveil avec nous aujourd'hui.
Merci à toi, je suis très heureux d'être ici et voilà qu'on échange sur ce thème ensemble.
Avant que tu te présentes, j'aurais juste rappelé que, enfin, je ne sais pas si les gens avaient écouté l'épisode que j'avais fait sur Pauwa, mais donc moi, je t'ai entendu à Pauwa, je t'ai découvert à Pauwa, donc cette conférence qui a lieu en octobre, qui avait été organisée par Loïc Lemeur avec plein d'intervenants qui parlaient de réunir tous les mondes. Et quand je t'ai entendu parler de ton histoire, donc je connaissais pas ton livre. Et je me suis dit, wow, ce gars, il a un parcours de dingue, quoi. Donc, t'es passé t'étais un serial entrepreneur, quoi, super accro au succès, à cette excitation de l'entrepreneuriat, et t'en parleras mieux que moi, à aller découvrir ton chemin spirituel. Et pour autant, t'as toujours été quand même attiré aussi par ce qu'il y avait au fond de toi.
Et même si ça sommeillait. Et tu sais, pendant cette conférence, je disais, mais comment est-ce que les gens qui sont dans cette salle, ils réagissent, tu vois, à ton parcours et tout. Et j'ai plein de fois, je me suis tournée, j'ai regardé dans la salle et je les voyais, c'est acquiescer, quoi, hocher la tête comme ça. Et je me disais, mais ça doit tellement résonner en eux. Et plus je me retournais, plus je les voyais, tu vois, hocher la tête. Et je me disais, mais waouh, tu dois en avoir, cet impact que tu vas avoir, cette trace que tu vas laisser. Et là, je me suis dit, putain, il faut que je te parle, quoi. Enfin, voilà. Et puis, quand j'ai vu la file qu'il y avait pour ton livre, je me suis dit, bon, laisse tomber, moi, je vais manger, je te contacterai une autre fois, quoi. Et puis, j'ai commandé ton bouquin chez un libraire en Suisse et c'était parfait, quoi. Donc, voilà, l'histoire.
D'accord. Bah, super. Je suis heureux que Pawa ait pu nous amener à nous rencontrer aujourd'hui. C'est vrai que cette conférence, dans un cadre un peu particulier à Station F, qui est donc ce hub de la tech, où en fait il y avait des leaders indigènes et en même temps des entrepreneurs de la tech. Donc l'idée étant de réconcilier ces deux mondes et de les faire interagir. Et voilà, c'était très intéressant. C'était donc un moment assez émouvant pour moi, puisque j'avais décidé, comme j'ai un peu décidé de le faire dans ce livre que j'ai écrit et qui est sorti donc là en mars 2022, de parler de manière intime, de manière honnête, de manière vulnérable, de manière authentique. Voilà, qui sont en fait des valeurs, on va dire des engagements, parce que voilà, je suis, mais quand même des valeurs qui fixent une ligne de conduite chez moi et même avant même d'être une ligne de conduite, une manière d'être. Une raison d'être, même c'est vraiment encore plus profond que ça, c'est une raison d'être au sens de si je ne me comporte pas comme ça, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est aussi fort que ça. Et donc c'est un peu nouveau pour moi parce qu'en fait de 20 à 30 ans donc brièvement tu l'as évoqué, j'étais un entrepreneur assez précoce depuis l'âge de 19 ans, où j'avais créé un concept de soirée sans alcool pour les adolescents dans des boîtes de nuit qui, à l'époque, que je louais le samedi soir de 19h à minuit. Ce concept a assez bien pris, assez vite, etc. Puis, bon, 10 ans plus tard, je me suis retrouvé avec 10 restaurants et boîtes de nuit que je possédais et que je gérais avec des associés à Paris. Et donc, j'ai été propulsé dans un monde où, finalement, être authentique, vulnérable, sensible, était en fait un défaut. Mais en fait, c'est pas bon. Là, c'était peut-être un peu extrapolé dans le milieu nocturne dans lequel j'étais, mais en réalité, dans 95% des univers sur notre planète aujourd'hui, peut-être même 99%, je ne sais pas. Il n'y a pas d'études statistiques sur ce sujet. Je crois que c'est souvent non pas un défaut, mais ça peut être en tout cas une perçu comme une faiblesse d'être voilà de se comporter de manière tout simplement d'être ouvert à ça en lien avec sa sensibilité. Et donc voilà. Et donc il y a eu une crise importante quand j'ai eu 31 ans, un burn-out très très violent. J'ai eu recours à une année de prise d'antidépresseurs où j'ai eu voilà des idées très noires jusqu'à avoir même par moments des envies. Je fais toujours attention aux termes que j'emploie parce que c'était il y a idée, envie et pulsion. C'était pas ni des envies ni des pulsions, c'était plutôt des idées suicidaires, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que le mental formalisait quelque chose dans la tête, mais au fond, il n'y avait pas eu vraiment de... Voilà. Et donc, plutôt un flirt avec cette éventualité de quand c'est trop dur, ah tiens, qu'est-ce que ça ferait, tiens, de finalement de disparaître, quoi. J'en étais quand même là, donc c'était quand même très, 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 très mal après avoir connu la gloire très tôt, très jeune, et puis voilà, pendant pas mal d'années. Et donc voilà, ça m'a conduit en fait à cette nécessité de changer.
Tu veux changer ? Qu'est-ce que tu fais pour changer ?
Pour changer, on est en décembre 2015 à Paris. J'ai vendu ma dernière boîte de nuit que peut-être certains de nos auditeurs connaissent, qui était Régine, qui est un lieu un peu mythique à Paris. Voilà, que j'ai tenu pendant quelques années. Et de là, je suis pour la première fois de ma vie, depuis que j'ai 19 ans, je suis vraiment libre. Une liberté, j'insiste sur ce terme, parce que c'est une liberté qui a pu me manquer à 19, 20, 30, 21, 22, 23, des âges où finalement je voyais mes copains très libres alors que moi je montais ma boîte et eux, bon, voilà, ils étaient encore à la cool, ils voyageaient, ils passaient les samedis après-midi à jouer aux jeux vidéo, enfin bon, c'était encore très, ouais, ils étaient étudiants, voilà, mais et donc cette liberté m'a un peu manqué, donc c'est la première vraiment, c'est vraiment ce que j'ai voulu vivre, quoi, la liberté au sens, dans tous les sens du terme, quoi, au sens large. J'étais par chance encore assez jeune, et voilà, j'avais 31 ans, donc 32 ans, et donc je n'avais pas encore aussi d'engagements familiaux. J'avais pu quand même préserver un petit peu d'argent de côté, pas beaucoup, mais un peu suffisamment pour en tout cas investir. J'emploie vraiment ce terme sciemment d'investir parce que c'est encore même l'entrepreneur qui parle, même dans cette quête spirituelle dans laquelle je me suis plongé. Il y avait vraiment une démarche encore une fois j'ai envie de dire entrepreneuriale, quoi. Donc parce que je me revois même faire à un moment donné. J'ai été jusqu'à vendre des meubles, mes vêtements, des choses. Voilà, j'ai jamais été très matérialiste et donc très franchement, voilà, je voulais aussi connaître le dénuement. J'étais très attiré par l'austérité des moines. J'étais très inspiré par, on va peut-être en parler après, par Mathieu Ricard, qui a été un peu la lanterne dans le brouillard de cette année 2015, hein, qui est cette année noire. Et c'est là, c'était le moment-là que je l'ai découvert. Enfin, ma mère m'en parlait déjà les quelques années d'avant, mais disons, voilà, j'ai été voir une conférence à ce moment-là. Je crois que j'ai lu un de ses livres à ce moment-là et il m'a donné beaucoup de force, d'inspiration et d'espoir surtout. C'est des gens comme ça donnent de l'espoir quand, en fait, d'autres sont dans le noir. Et moi, j'étais vraiment dans le noir à ce moment-là. Et donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est assez simple. En fait, ça s'est résumé à une prise de décision qui a été quelques semaines après la vente, donc, de Régine. Donc en janvier 2016, à prendre un billet d'avion pour l'Amazonie, voilà, qui était une intuition très très profonde que j'avais, que je ne peux pas vraiment expliquer. Je fais attention aux mots que j'emploie, j'aime pas trop parler d'appel, etc. Mais il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi, d'un peu d'un appel, quelque chose. Parce que très franchement, j'avais rien en moi qui me reliait à cette terre. J'ai grandi en France, à Paris. J'avais un peu voyagé, mais bon. J'avais d'ailleurs été effectivement souvent en Amérique du Sud, au Brésil. J'avais déjà une petite attirance pour cette région du monde. Mais là, voilà, l'Amazonie. Et puis, voilà, synchronistiquement, on m'avait donné le contact d'un chaman là-bas qui avait exactement mon âge et qui s'appelait Indius. Et ce nom, voilà, vraiment, qui était doux, rassurant. Ce nom me donnait envie de, bah, je sais pas, voilà, m'attirait beaucoup. Et donc, voilà, il était donc le fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'une longue lignée de chamans là-bas, donc j'étais assez en confiance. Et encore une fois, rien ne me reliait à ce monde-là à l'époque, mais des amis, voilà, m'avaient, qui étaient reliés au Brésil, m'avaient donné ce contact en me disant, tu devrais contacter cet Indios. Il avait donc ouvert un centre, une sorte de, d'écologe spirituel, communauté spirituelle, voilà, où il y a voilà, un certain nombre de pratiques chamaniques, et donc voilà, ça, on va sûrement en parler aussi un peu là dans l'interview. Et donc je suis parti, voilà, le 23 janvier 2016, ouais, vers de nouvelles aventures.
Entre 2016 et j'ai un peu de la peine à retracer l'histoire, mais je pense que jusqu'à 2019, un truc comme ça, bon, tu fais 3 ans en fait de chemin vers toi, en fait. C'est juste, ça fait à peu près 3 ans, c'est ça? Un peu plus?
Ouais, c'est ça. 3-4 en fait, parce que je me suis posé au Portugal où je vis aujourd'hui.
Ouais.
Mais j'étais quand même encore beaucoup justement au Brésil et en Amazonie dans l'année 2019. Mais bon, peu importe. Oui, c'était une période de 3-4 ans. Et en fait, ça devait être un voyage de 3 mois. Et donc, j'ai quand même tiré le fil d'une bobine, comme le chat qui joue avec sa pelote de. de laine, et j'étais un peu comme ça, et d'ailleurs je pense que même cette analogie du chat avec la pelote de laine elle est assez juste, parce que il y avait aussi un truc que j'ai toujours eu ce tempérament quand même, et ça c'est resté d'être très, je vais pas dire jusqu'au boutiste, mais quand même très voilà, déterminé à comprendre et à comprendre tous les contours de ce qu'est-ce que c'est que la spiritualité, le chemin spirituel, la voie spirituelle, en fait, parce que j'aime mieux parler de voie spirituelle à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs chemins. Et ça, c'est assez intéressant, parce que quand on est extérieur à tout ça, ce qui était mon cas jusqu'à cette époque, je ne voyais pas. Voilà, bon, c'était abstrait pour moi. Voie spirituelle, j'avais vaguement été à la messe depuis que j'étais petit, j'ai grandi dans la religion catholique. La spiritualité, je ne savais même pas faire la différence entre qu'est-ce qu'une religion, la spiritualité. Bon, tout ça était très confus. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs chemins. Du chamanisme au bouddhisme tibétain, en passant par le tantra, le yoga, l'ayurveda, enfin tout ça qui sont des sortes de philosophies, certaines flirtent un peu avec la science, parce qu'il y a quand même des choses assez empiriques qui ont été quand même expérimentées, enfin ouais, qui permettent d'établir des choses, des diagnostics quoi. J'ai envie de citer un livre incroyable hein, qui s'appelle Le Livre des Secrets de Osho, un maître spirituel qui une sorte de bijou où voilà c'est des aventures d'un yogi qui fait des expériences comme ça, mais c'est comme une démonstration mathématique de l'existence. Bon, voilà,
ok, ouais, je l'ai pas lu celui-là, donc, merci. L'Amazonie, le Brésil, l'Inde, tu as aussi fait pas mal de retraites en Europe, tout ça, ça t'amène à comprendre quoi en fait sur quand même plusieurs années, plusieurs mois, tu découvres quoi, parce que tu pars, tu le dis dans le livre et tu le dis dans un interview, je sais plus lequel, certainement plusieurs, que tu avais des trucs à régler, quoi. Donc, c'est quoi ces trucs à régler et aujourd'hui, c'est comment, quoi. Enfin, tu règles quoi, tu découvres quoi et aujourd'hui, je veux pas dire t'es qui parce que ça, c'est une autre histoire, mais comment tu te sens par rapport à ça, quoi.
Déjà, j'ai quand même envie de te répondre à t'es qui parce que c'est une belle question. Et c'est quand même, tu me tends une perche parce que la première phrase de ce livre donc que j'ai écrit et qui relate cette transition de vie, qui est un livre qui s'appelle donc Humain et donc qui est un voyage au très fond de l'être humain.
Merci. Ah, il est beau, comment il est corné de partout. Tu sais, j'ai fini par corner, j'avais pas de stylo sous la main et je veux pas le lire avec un stylo, mais il est corné de partout quoi. Et je vais pouvoir prendre des citations et tout. Je te jure, c'est vraiment le pire.
Merci. Cool.
Excuse.
Non, je t'en prie. Je suis très heureux. C'est ouais, une joie énorme quand même. Ouais. Évidemment, d'être lu, enfin écrire, c'est génial et être lu, c'est tout aussi génial, si ce n'est encore plus génial quand voilà, on peut partager ce qu'on ressent. Et... Mais donc en tout cas, la première phrase c'est qui suis-je et la dernière c'est de dire qu'en fait, je cherche plus vraiment à répondre à cette question. Voilà, c'est-à-dire que bon, voilà, je me suis dédié 4 ans à ça et au fond, ce serait mentir que d'essayer de me définir et ce serait voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus tous à l'aise avec ça et en paix, surtout qu'on est des êtres polymorphes. On est des êtres humains, ça va avec ça, c'est ça l'humanité. On est en fait plein de composantes à la croisée de la génétique, de l'éducation, de l'influence sociale, des expériences de notre vie, évidemment plus fortes, plus impactantes dans les premières années, mais qui sont toujours importantes au fil du temps. Voilà, donc les mots sont malheureusement impuissants, je crois, à définir le moindre être humain sur cette planète. Donc ça, c'est quelque part, on pourrait dire, une définition de qui on est. En fait, c'est déjà d'accepter que voilà, c'est pas vraiment le but de se définir, voilà, et aussi d'être conscient que la vie, ça peut être un peu, c'est plusieurs chapitres, quoi, et qu'au fil de ces chapitres, on peut devenir quelqu'un de différent. Et qu'on est en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution. Là, on parle beaucoup de ce thème très actuel dans le monde, qui est la transition avec un grand T, à tous les niveaux. Mais en fait, la transition, elle existe chaque jour, chaque minute. Voilà, on évolue, on se transforme. Après, il y a des moments d'accélération. Je vois plutôt ça comme un phénomène en fait permanent, qui est quelque part, qui fait partie de notre fonction d'être humain et voilà avec des petits coups d'accélérateur par moment, c'est-à-dire quand à un moment donné il y a une crise et ben forcément on va changer plus et donc ça va nous amener vers une version de nous-mêmes qui est encore différente et ainsi de suite jusqu'au dernier souffle.
J'aime bien quand tu dis dans ton livre, tu dis on est, alors, je sais plus si tu dis en location ou voilà où tu compares, je sais plus la vie à un parc d'attractions et tu dis on a des tickets par tranche de 10 ans, je crois que c'est ce que tu et ok moi et tu dis bah à 31 ans là tu dis bon ok moi j'ai grillé déjà 3 tickets quoi.
Ouais une cartouche. Je vois ça ouais. Comme des cartouches.
Et parce que... voilà. Ouais, c'est ça.
Et oui, c'est cette analogie d'un parc d'attractions géant qu'est la Terre. Parce que c'est un peu comme ça que je vois la planète Terre. Quand un parc d'attractions est génial et géant et gigantesque. Où en fait, justement, on peut être entrepreneur, on peut devenir artiste, on peut voyager, on peut se retirer du monde, on peut imaginer finalement pas mal de choses. Et on peut aussi, pourquoi pas, je pense que toute trajectoire est se vaut. La vie, voilà, c'est déjà d'être bien à l'endroit où on est, et c'est surtout, et là, il y a une étude d'Harvard qui vient de sortir et ça me fait plaisir parce que c'est une étude, on peut imaginer, assez rigoureuse sur 75 personnes de 75 ans.
Ouais.
Et dont la conclusion, en gros, hein, en bref, c'est que bon, c'est pas l'argent qui nous rend heureux, c'est une étude sur le bonheur. C'est pas l'argent, c'est pas même le succès, c'est pas même, enfin, c'est les liens humains, c'est les relations humaines de qualité, d'harmonie qu'on a. Voilà, c'est ça qui prime, c'est ça qui est vraiment le plus grand vecteur de bonheur. Et c'est intéressant. On sait sans le savoir, mais c'est important de s'en rappeler et que cette étude voilà, démontre voilà, d'une manière un peu rigoureuse.
Mais je pense que tant que t'as pas perdu des gens qui ont vraiment compté pour toi, tu te rends pas compte de cette importance du lien. Enfin, ces moments précieux en fait que t'as passé, que t'as vécu avec les gens font que ça. C'est ça qui crée des souvenirs et c'est tout ce qui reste en fait quand les gens sont plus là. Donc ce lien, il est hyper précieux. Donc moi, j'ai pu vivre ça parce que mon père est décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère et j'ai pu me rendre compte de ça en fait à ce moment-là, me dire j'en aurais voulu encore plus, mais il me reste quand même des souvenirs quoi. Et ça m'a beaucoup posé de questions, tu vois, sur le temps qu'on passe à bosser comme des fous dans la performance pour un succès qui est fait partie d'un cadre que tous les deux on veut plus aujourd'hui, mais pourquoi en fait? Parce que finalement, quand t'arrives au bout et si tu veux te retourner sur ta vie ou voilà, ou même quand t'as un point de bascule comme t'as vécu, comme moi j'en ai vécu plusieurs, mais où tu te dis ben putain, c'est pas ça qui est important en fait. Ce qui est important, c'est cette qualité des liens que j'ai avec les gens, donc le temps que j'ai avec les gens. Et c'est ça la plus grande richesse qu'on a, quoi, je pense.
Ouais. Tout à fait. Et t'amènes quelque chose de vraiment intéressant par rapport au deuil de ton père. C'est le fait que, justement, et ça, beaucoup de maîtres parlent de ça, on peut être en lien encore après la mort, en fait. Et que, quelque part, ce qui compte, c'est là où le deuil peut être très douloureux et la perte peut être vraiment... Voilà, et procurer beaucoup de tristesse. Mais d'ailleurs, on voit bien que souvent, c'est drôle, parce qu'aux enterrements ou même dans les périodes de deuil, on est triste, mais on est triste. Et pour autant, je dirais qu'on n'est pas forcément malheureux. Je ne sais pas si on peut faire la nuance. Il y a quelque chose d'assez... Parce qu'on est profondément en lien avec nos émotions. C'est des moments où, finalement, on s'accorde d'être en lien avec notre tristesse. Et en fait, du coup, il y a comme un autre, comme quelque chose d'autre la tristesse peut être douloureuse, mais il y a quelque chose qui peut, en tout cas, ce qui est important, ce que disent certains maîtres, c'est que c'est l'harmonie dans les relations, qui compte. Quand quelqu'un part, c'est bien si on peut être en paix, on peut arriver aussi à être en paix plus tard, mais voilà, c'est mieux si la paix peut se créer du vivant.
C'est marrant ce que tu dis sur les enterrements, le fait d'être triste et tout. Il y a pour moi, je fais le lien là maintenant. Moi, j'ai beaucoup de médité, tu vois, dans des retraites de yoga, tu sais, pendant des heures, tu vois, en chantant des mantras et tout. Et il y a en fait cette énergie collective, tu vois, quand tu médites, je pense toi t'as vécu ça aussi, ou du lieu en fait. Et tu vois, je pense l'église avec la cérémonie, ce lieu de recueillement pour dire au revoir où tout le monde vient dans le même but, fait qu'il y a une sorte de, je sais pas si c'est un égrégore, mais je crois surtout que c'est une énergie collective de qui a un fond de tristesse qui fait que ça t'autorise dans ce lieu-là à être triste ou à exprimer ta tristesse et peu importe comment. Mais en tout cas, moi, je peux dire, j'ai jamais été malheureuse du décès de mon père. Moi, je trouve que c'est la plus belle mort qu'il pouvait avoir. Donc, j'ai des regrets sur du temps qu'on n'a pas eu, il me manque, et voilà. Mais je suis pas triste ou malheureuse. Aujourd'hui, je suis, c'est juste, c'est la vie, ça fait partie de la vie et c'est ok, quoi, tu vois. Donc, enfin voilà, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je pense toi, t'as senti aussi ça en fait, cette énergie en fait dans les ashrams où t'as été, ou bien en Amazonie dans ces écologes ou peu importe dans ces lieux de retraite. Je pense que t'as senti en fait cette énergie qu'il y avait, qui était.
Ouais, bien sûr, qui m'a tout de suite saisi en fait. Et c'est surtout que c'est là où bon, le titre du livre c'est Humain, et en fait c'est parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est senti, je me suis senti déshumanisé en fait. C'est-à-dire que dans cette vie de succès, d'adrénaline, d'addiction à la performance, l'obsession de briller, d'être quelqu'un, de représenter quelque chose. Même aussi, je fonctionnais sur des mécanismes qui, au fond, ne me rendaient pas heureux. C'est-à-dire que l'importance de voilà, d'être toujours dans un rapport de force avec les gens, hommes comme femmes d'ailleurs, d'être voilà, du coup, souvent dans parfois je pouvais être agressif, provocateur, versé dans le cynisme, l'ironie, le sarcasme. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses que les bouddhistes, pour me référer qu'à eux, parce que j'ai pas de paroisse à titrer aujourd'hui, mais bon, j'ai beaucoup exploré le bouddhisme. Ils appellent ça des toxines mentales. Et en fait, le chemin du bouddhisme, c'est ça. C'est en fait de se défaire de ce autant que possible, parce que voilà, je pense qu'au final, l'être humain doit, c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'enregistrement, l'être humain doit aussi à un moment donné faire la paix avec ses imperfections et accepter que, parce que j'ai pu aussi, dans ces 4 années que j'ai dédiées à cette quête spirituelle, j'ai pu aussi me mettre la pression. Et donc finalement, c'était les mêmes mécanismes que les mécanismes du chef d'entreprise qui cherche voilà, la reconnaissance, le succès, la gloire, l'argent. Bon. Et en fait, à atteindre cette espèce d'état qu'ils appellent en Inde l'éveil, avec un grand E, l'illumination, donc qu'on prête à certains yogis, à certains grands sages. On peut penser au Dalai Lama. Mathieu Ricard dit souvent d'ailleurs que c'est presque humoristique. Il dit qu'il est 100 000 fois moins sage, je crois. Enfin, il a dit ça une fois, je crois, que le Dalai Lama, ce qui est pour montrer qu'il y a, voilà, il y a des, voilà, des degrés de sagesse, de bonté, de voilà. On a besoin de ces icônes et de ces modèles dans le monde pour aussi se dire que voilà, il y a des êtres merveilleux.
Tu vois, c'est bien que t'arrives là-dessus, parce que je voulais t'amener à un moment donné, parce que toi, dans le livre, tu l'exprimes, enfin, t'as été déçu par un de tes maîtres, et on est tous à un moment donné déçus parce qu'on est attiré, en fait, par cette image qu'ils ont. Et en fait, on croit qu'ils sont parfaits, ou tu vois, qu'ils ont intégrer peut-être un degré de perfection, mais en fait, finalement, ils sont humains, ils sont au chemin aussi, peu importe dans quel degré, tu vois. Comment toi, tu l'as vécu? Comment tu t'en es remis, en fait, aujourd'hui, de te dire, ouais, en fait, j'ai été déçu par un de mes guides, quoi.
Ça a été un peu le... J'avais déjà été déçu avant par d'autres, voilà, des associés, des collaborateurs, des amis, ben, comme tout le monde, hein. Mais bon, je sais pas, j'ai cru qu'à moi, j'ai eu le sentiment d'être peut-être plus souvent exposé à ce type de déconvenue ou de déception. Et j'ai fini par comprendre que c'était aussi parce que je m'étais parfois certaines personnes qui ont pu justement guider mon chemin, des mentors, j'ai souvent eu des mentors, que je les mettais sur des piédestals. Ce qui au fond était un manque de confiance en moi-même, en fait, parce que on met quelqu'un aussi sur un piédestal parce qu'en soi, on, voilà, c'est un peu des vases communicants aussi quelque part. Et donc j'ai compris ça, et à un moment donné, c'est un peu ce que cette déconvenue avec ce maître. Donc pour donner le contexte, pendant ces 4 années donc que j'ai dédié à cette quête spirituelle, j'ai assez tôt, au bout de 6 mois, rencontré donc un maître assez connu au Brésil. et qui est un maître donc brésilien, mais qui est le maître d'une lignée d'un ashram du nord de l'Inde, dans l'Himalaya. Il est aussi au Brésil un leader spirituel, en fait. Il a beaucoup d'adeptes. Et donc, voilà, c'était assez complet pour moi, parce qu'au Brésil, il vit à São Paulo, il est intégré dans le monde et dans le monde de la matière. Et d'ailleurs, c'est peut-être important que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent ou de gens qui sont dans la vie active, et peut-être de quand même de situer un peu tout ça. Le but de cette quête, c'est évidemment pas de finir de vivre dans les montagnes. C'était plutôt de comprendre des choses de la vie pour aussi, et ça, c'est l'enseignement de tout, j'ai envie de dire, bon maître spirituel, c'est que tout enseignement spirituel doit s'incarner dans la matière. Et donc, en fait, à un moment donné, voilà, sinon on est juste à méditer sur des concepts. Bon, et même les moines, d'ailleurs, bon, ils sont vraiment dans une vie spirituelle, mais bon, en l'occurrence, je vais reprendre comme exemple Mathieu Ricard, qui est un homme extrêmement actif, qui a créé je sais pas combien de projets associatifs, qui aide voilà des milliers de personnes dans ces régions du monde, voilà le Népal, le Tibet, l'Inde, cette partie-là du monde. Bon, et bien, sans compter le travail qu'il fait en Occident et en France, quoi, d'éveil par ses livres, ses photos, ses conférences. Je veux dire, pour moi, il sort des gens de la mare, quoi, de l'étang, quoi. Enfin, moi, je me vois un peu comme ça. C'est vraiment le sentiment d'être, tu vois, d'être pêché par quelqu'un qui t'élève, quoi. Voilà. Et du coup, et moi, j'en suis qu'un parmi finalement des milliers, ou je sais pas, des dizaines de milliers. C'est ce maître et cette déconvenue, c'est que voilà. Donc, il vivait à São Paulo, et donc voilà, quatre mois par an, il était en Inde dans cet ashram. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée que c'était prendre du recul, partir en Inde. On avait donc ce qu'on appelle des saisons dans cet ashram. C'est très organisé, où il y avait tout un programme, des talks, méditation, yoga, rituel, musique, de chants de mantra, jeûne à certains moments, des jeûnes pour. Et donc c'est un peu le but d'un ashram, c'est comme un peu, on peut aussi qualifier ça d'école de la spiritualité. Donc c'est des endroits où on peut un peu voilà essayer de s'intéresser à ce monde intérieur. Et moi, et ça en revanche, je veux le dire clairement, c'est-à-dire que j'espère que le 21e siècle sera un siècle d'intériorité, parce que le 20e siècle a été quand même voilà très finalement tourné vers l'extérieur, la consommation, la quête, ouais, des choses qui se passent finalement un peu à l'extérieur de nous, avec pas mal d'ignorance en fait sur qui on est à l'intérieur. Et ça, c'est une question aujourd'hui qui germe dans un siècle qui aujourd'hui nous impose finalement de s'aligner avec les besoins d'une planète qui a besoin de qu'on prenne soin d'elle. Et donc la nature va être au premier plan, est au premier plan, la nature, donc voilà, de ce siècle. L'écologie est au premier plan de ce siècle. Et donc, autant la quête matérielle du XXe siècle, faire, je sais pas moi, des commerces, des supermarchés, des télés, ça requiert certaines qualités. Là, prendre soin du planète, ça en requiert d'autres. Et donc, je pense que ça va nous emmener vers plus de... Parce que pour que cette transition puisse s'opérer, il faut qu'il y ait aussi un changement au niveau individuel. Donc, voilà, chaque être humain va devoir un petit peu quand même... donner un peu de soi en fait, et voilà, être capable de changer un peu ces voilà, je pense qu'on est quand même concrètement en train de changer de paradigme, quoi, de voilà, c'est une évolution de plus, hein, mais comme il y en a finalement eu tout au long de l'histoire, hein, c'est pas la première qu'on est en train de vivre.
Ouais non, c'est obligatoire, quoi. C'est incontournable aujourd'hui, on peut pas faire l'économie de ça, hein. Après voilà, chacun son chemin et ses prises de conscience, quoi, ça.
Ouais, et chacun le fait à son niveau, c'est non, parce que je pense, ouais, que n'importe qui de toute façon doit être en lien avec la planète. Je veux dire, même si des personnes qui ont pas une conscience écologique importante, je pense que d'ici 10 ans, tout le monde fera le tri sélectif chez soi, par exemple. Donc ça peut être à des petits niveaux comme ça, comme d'autres qui vont être des activistes qui vont s'engager pour la planète, et ou d'autres au milieu qui vont être, et là je parle aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui vont être des entrepreneurs engagés dans des projets écologiques. Donc en fait des entrepreneurs hybrides, qui est un peu voilà le je vais dire la thématique, mais qui est la voie en tout cas aujourd'hui, puisque pour répondre à la question qui es-tu aujourd'hui, que tu m'as posé au début de l'entretien, et là peut-être qu'on est, aujourd'hui j'essaye justement d'être dans cette hybridité, dans cette ce lien entre l'action et la contemplation, mais pas que l'action. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire d'être à nouveau un entrepreneur actif. Donc j'ai écrit ce livre et pareil, ce livre, je pourrais dire que je l'ai fait d'une manière. C'était encore une fois pour moi, c'est une démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire que bon, je l'ai écrit. C'était il y avait aussi une démarche pour moi, c'était thérapeutique. C'était la première motivation. Et la deuxième motivation, c'était aussi de l'écrire pour préparer un projet entrepreneurial justement qui va dans cette voie de transmettre à mon humble niveau ce que j'ai pu comprendre, apprendre, découvrir et surtout expérimenter, parce que mon travail va surtout passer par l'expérimentation et donc et par l'expérience et donc aujourd'hui je vis donc à Lisbonne, j'ai un fils qui a 2 ans que j'ai eu avec ma compagne que j'ai rencontrée dans ses années de voyage, qu'elle a une trajectoire de vie un peu similaire à la mienne puisqu'elle a grandi à Singapour. Elle est allemande chinoise et elle a grandi à Singapour et elle a ensuite été à Londres et elle a été trader dans une grande banque où elle a fait aussi un burn-out et donc en fait on s'est rencontrés un peu sur les mêmes sur ces fondements là quoi, de remise en question un peu de la vie et de surtout qui on voulait être nous dans cette vie quoi.
Ouais.
Et voilà, et donc et aujourd'hui on est tous les deux engagés dans des projets qui sont destinés, alors pareil, j'emploie ce mot avec précaution, mais à cet éveil dont on parle, quoi, cet éveil collectif, ce travail de conscience. Bon voilà, ça sont un peu des grands mots, des mots qui peuvent peut-être sonner abstraits, mais concrètement, voilà, il y a ce livre pour moi de mon côté. Je donne des conférences sur une thématique qui est justement la thématique du wisness, qui est un terme qui m'est venu là il y a quelques mois, tout simplement wisdom in business. Donc c'est la contraction de ces deux mots, donc sagesse et business. Ça m'est venu au fil d'une conférence que je donnais sur le pont entre justement business et sagesse, qui sont en fait voilà les deux polarités dans lesquelles moi j'ai évolué depuis l'âge de 20 ans. Et comment réconcilier ces deux aspirations qu'on a, parce qu'en fait au fond de chacun, c'est pas vrai qu'un être veut être qu'un businessman. Mais non, parce qu'en fait on a tous un corps émotionnel et je suis heureux aussi d'entendre de plus en plus ce terme de QE. On parlait tout le temps du QI, moi, quand j'étais petit, le quotient intellectuel. Donc, on est au niveau du cerveau. Là, on parle de quotient émotionnel parce qu'avant toute chose, et c'est prouvé hein, aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que nos émotions sont quand même un peu la source de tout, quoi. C'est vraiment, voilà, et même après ce qui se passe dans le cerveau, au final… Bon, il y a une interaction, bien sûr, mais c'est souvent la conséquence de ce qu'on ressent au niveau émotionnel. Et donc, c'est ça, le businessman ou la businesswoman du 21e siècle, c'est un être qui est relié à son cœur et à son corps. C'est-à-dire qu'il y a les trois C, cœur, corps, cerveau, parce qu'il est aussi relié à son cerveau. Je dis pas qu'il faut le quotient intellectuel ne sert à rien, pas du tout, évidemment, c'est très important, mais c'est juste, voilà, rentrer dans une peut-être une conception de l'être humain qui est un peu plus globale, holistique, qui fait le lien entre le corps et l'esprit et entre voilà ces trois niveaux de ressenti qu'on a et d'informations qu'on a et donc c'est un être qui est en lien. Et donc ça veut dire quoi concrètement être en lien avec son cœur et son corps? Par exemple, le cœur, c'est justement être ouvert à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, être ouvert et du coup aussi ouvert. C'est ça la beauté, et c'est ça qu'on découvre. Et moi, j'en suis l'illustration. J'aurais jamais pensé être capable d'écrire un livre un jour dans ma vie. J'ai eu 9 sur 20 au bac français. J'étais pas du tout prédestiné à écrire. J'étais tout le temps dans l'action. J'étais un hyperactif, etc. Et en fait, en m'ouvrant, en prenant le risque, parce que voilà, disons-le comme ça, à l'époque, ça ressemblait à un risque et ça ressemble toujours à un risque quand on est dans son confort de la vie, qui roule, une vie, rodée, très centrée sur le matériel, etc., l'action, etc. Quand on s'ouvre à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, on se dit, c'est comme jeter dans l'eau froide. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce que je vais découvrir dans l'eau froide? Et ben, en fait, bah oui, on a un peu froid sur le moment, c'est ça, c'est sûr, on a froid, parce qu'on se sent un peu à nu, on se sent un petit peu, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Mais on découvre qu'en sortant de l'eau, c'est magique. C'est un peu à ça que j'assimile la vulnérabilité, la sensibilité, c'est se mettre en lien avec ses qualités, parce que ce sont des qualités qu'on a. et ben après va faire naître l'intuition, la créativité. Et donc c'est parce que voilà, il y a comme un parcours en fait. C'est comme si c'était un parcours émotionnel qu'on pourrait voilà dessiner. Ouais. Bon, par ailleurs, je prépare aussi des retraites qui seront des expériences immersives en forêt et où voilà, il y aura ça sera aussi mixé avec ce parcours de j'allais dire le parcours du combattant, mais de parcours du guerrier spirituel en fait, qui est, parce qu'on pourrait assimiler tout ça. On a fait beaucoup d'épreuves physiques depuis qu'on est tout petit. On a été très dans la performance physique, le sport, etc. Mais en fait, c'est un autre exercice, mais qui est tout aussi intéressant et difficile que d'essayer de se mettre en lien avec certaines émotions avec lesquelles on n'est pas du tout familier, avec lesquelles on n'est pas du tout habitué, et pouvoir essayer de faire émerger d'autres choses. Et donc moi, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert que l'intuition, la créativité, et puis tout simplement l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est plus sensible, plus vulnérable, plus dans nos émotions. Et encore, et je le dis aussi, sans tomber dans un excès, parce qu'il y a aussi ça, il faut faire attention. L'idée, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être un peu dans la posture juste, de jamais être, parce qu'après, on peut aussi tomber dans le pathos, et c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est pas de tomber dans le gnangnang, et je parle là notamment aux hommes qui nous écoutent.
Je pense que ça vient, en fait. Je pense que les hommes commencent à s'ouvrir un peu, tu vois. Enfin, vraiment gentiment. Je pense que c'est toujours une histoire de comment on veut regarder les choses, tu vois. Si on pense qu'il y a personne, que les hommes, ils veulent pas, c'est sûr qu'on peut pas leur en parler. Mais ça vient. Puis en parlant, on sème nos graines, et, tu vois.
Tout donc, à fait.
T'as envie, en fait, d'amener les hommes à s'ouvrir, à se relier à leur cœur, à aligner ces trois C, si on peut dire ça comme ça.
Totalement. Et d'ailleurs, voilà, c'est marrant que tu m'en parles, parce que je crée là, à partir de janvier, là, à Lisbonne, des cercles d'hommes. Ce qu'on appelle ici men's circle. En fait, ma femme fait déjà des cercles de femmes depuis quelques années. Et là, j'ai envie de faire ça pour les hommes. Voilà, pareil, avec un cadre. Et il ne faut pas que ce soit... C'est l'idée, c'est pas que tout le monde se mette tout nu. Je parle au sens métaphorique.
Oui, oui.
L'idée, c'est que les hommes puissent partager des choses qu'ils ont sur le cœur, qu'ils n'ont pas forcément... Les hommes sont souvent, en fait, assez seuls et assez isolés parce que, il y a ce truc où on n'est pas censé, nous, se plaindre, s'ouvrir sur nos émotions... on n'est pas censé forcément, voilà, on est là pour assurer, délivrer, bosser, enfin en tout cas dans le modèle ancestral qui est en fait remis en question d'abord parce que la femme a bougé en fait dans les dernières décennies. La femme déjà en se mettant à travailler en changeant pas mal de choses, bah ça forcément c'est aussi ça la business woman, c'est que c'est une femme qui bosse, qui peut réussir, qui peut gagner beaucoup d'argent, mais
elle n'est pas obligée d'être imbuvable.
Elle n'est pas obligée dans la revanche, dans la rancœur et essayer de entre guillemets de réparer peut-être des générations de femmes avant elle qui disent avoir souffert, et ce qui est encore à démontrer parce qu'en fait beaucoup de femmes, je pense aussi, ont trouvé leur compte dans ce modèle de la société patriarcale où finalement les hommes bossaient, les femmes étaient au foyer. Ce qui est moi pour avoir un fils aujourd'hui, je vois bien, c'est aussi du temps, du travail, de l'énergie beaucoup, et c'est important surtout. Et c'est important pour un homme qui est aussi d'avoir une maison. Et d'ailleurs, en parlant d'expérience spirituelle, la plus grande expérience spirituelle que j'ai faite jusqu'ici, ça reste la paternité. Donc, et ça, on est tous touchés. Donc, en réalité, il y a eu ces 4 années entre l'Inde, l'Amazonie, etc. Mais après, en réalité, et c'était d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant, ce que c'est même là, je dirais, où ces enseignements spirituels, ces théories spirituelles, quand on les incarne dans un projet, justement, un projet de vie familial, entrepreneurial, à l'épreuve d'un quotidien, là on voit vraiment, on voit vraiment entre guillemets à quel point, on a évolué, bougé, à quel point on est capable, on a un peu, une sorte de père de verdict, mais on voit un peu la valeur que ces enseignements ont. Et d'ailleurs, ce maître Premaba que je suis avait cette phrase magnifique. Il a eu une fille, en fait, exactement au même âge que moi. J'ai eu mon fils à 36 ans. Et quand ma compagne est tombée enceinte, on a eu un échange un peu assez intime. Et il m'avait... Et sur la paternité, je le questionnais. À l'époque, j'étais dans ce chemin spirituel. Je me demandais si j'étais vraiment prêt à être père, etc. etc.
Ouais.
mais il m'avait dit, c'est quelque chose, j'avais surtout peur de ne plus pouvoir m'impliquer dans ma vie spirituelle, ce qui pour moi restait important. Et il m'avait dit, avoir ma fille m'a aidé non seulement à m'impliquer davantage, à m'impliquer dans ma vie matérielle, bien sûr, puisqu'un enfant vous implique dans la vie matérielle, puisqu'il y a d'un coup une nécessité, voilà, de matériel, de confort, enfin, etc. Mais aussi bien donc dans la vie matérielle que dans la vie dans ma vie spirituelle. Et elle est devenue mon yoga. Et j'ai trouvé cette phrase magnifique, voilà. Qui tout simplement, et que cette phrase a ouvert mon cœur, et d'un coup, je me suis, voilà, et c'était un peu ça, je pense qu'il voulait aussi que, ouais, que je, ouais, c'est l'idée d'un bonnet de se confronter à une réalité, quoi, parce que finalement, être au bord du Gange, dans l'Himalaya, à méditer sur un rocher, bon, je donne un peu une image caricaturale, mais, pourquoi pas, mais bon. On ne sait pas très bien finalement ce que ça vaut en fait.
Ton fils il a 3 ans, hein, c'est ça?
Ouais, bientôt. Ouais.
T'accompagnes-toi, vous devez assumer quand même, tu vois. Faut que ça fonctionne. Enfin, vous devez pouvoir manger, quoi. Manger, avoir un toit au minimum.
Ouais, ouais, totalement.
Et comment en fait tu fais comment justement tu vis au quotidien entre ta spiritualité, la matérialité? Comment tu fais le lien entre les deux? T'as des routines? T'as gardé des choses? Tu t'évades? Comment tu gardes ton alignement en fait?
Ouais, très bonne question et merci de l'amener. Et peut-être j'espère que j'étais pas trop abstrait ou trop dans les concepts jusqu'ici, et parce que c'est
non,
un peu
non,
ça.
Du tout, non.
Non, mais aujourd'hui voilà, c'est quelle est la réalité d'aujourd'hui concrètement. Bah en fait, ce qui était à l'époque en Inde des heures, je sais pas moi, dédiées à la spiritualité tous les jours, enfin j'étais dédié à ça pendant ces années. Bah aujourd'hui c'est 15 minutes le matin, voilà, ou déjà c'est 10 minutes de yoga, de posture, des trucs très simples, hein, 5 salutations au soleil, et puis après 3-4 postures, je me suis fait ma petite pratique.
Ouais.
Et 5 minutes ensuite de méditation, ce à quoi je vais peut-être ajouter là, parce que j'ai un nouveau 5 minutes de respiration avec des exercices de respiration, parce que la respiration, c'est un outil extraordinaire
Tu fais quoi? Pranayama ou, la respiration alternée?
Là, je le fais pas encore, mais c'est la respiration, justement, qui vient de Wim Hof, ce thérapeute du froid, qui est une sorte d'hyperventilation, qui se fait, voilà. Et en fait, je fais ce qu'on appelle des breathwork. Alors voilà, pour continuer cette routine spirituelle. Donc, c'est 15 minutes le matin. Et si je fais plus, ça marche pas. Pourquoi? Parce que sinon, je le fais sauter. Donc, il faut être aussi humble et réaliste sur ce qu'on peut faire. Mais déjà, ces 15 minutes, je veux dire, ça me change. Enfin, c'est comme si ne pas les faire, c'est comme si je prenais pas une douche le matin, quoi. Ça me manque à un point important. Donc, par exemple, et voilà, bon, ça peut parfois m'arriver sur le week-end si mon fils vient me sauter dessus le matin. Ouais, et je peux la faire sauter, mais c'est quand même vraiment important pour fonctionner et garder cette présence, cet alignement, parce qu'en plus dans ce quart d'heure chaque matin, c'est un moment vraiment introspectif, de calme, de paix intérieure, où il y a beaucoup aussi d'intuitions qui peuvent germer, parce qu'il y a ce silence et il y a ce moment que je révèle qui est petit, mais il y a des choses qui me viennent pour ma journée. Et puis à la fin d'ailleurs, j'ai un petit exercice de visualisation des différentes personnes que je vais rencontrer dans la journée pour me relier à elles, voilà. Et alors là-dessus, typiquement, je n'ai plus 8 à 10 rendez-vous par jour comme j'avais à l'époque où je brassais. D'ailleurs, j'avais 8 à 10 rendez-vous par jour, mais après, je voyais, je sais pas, beaucoup de gens tous les jours, parce que dès que j'allais dans un milieu, j'étais très sollicité. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir je vois 2-3 personnes dans la journée, bon, souvent aussi d'ailleurs par Zoom. Voilà. Donc, la pratique, ensuite, il y a un breathwork, c'est des exercices, un rituel de respiration qui dure 1 heure. Je fais ça une fois par mois avec de coach thérapeute ici qui est super, qui fait ça. Voilà, c'est être en lien avec la nature. Donc très souvent ça c'est tous les week-ends, il n'est pas question de rester en ville. C'est dès que possible, ça je le dis à toute personne qui nous écoute. En fait, on se rend pas compte, mais on a tous entre aller 2 heures au bowling ou 2 heures dans la forêt, allons dans la forêt, quoi. Parce qu'un bowling, c'est en sous-sol, c'est encore une fois un truc où voilà. Ça, en fait, au plan neurologique, c'est ça qui est dommage. Ça ne nous fait juste pas du bien, voilà. Donc, faut lire 2-3 études, faut se rendre compte qu'il y a des choses qui nous font du bien, d'autres qui nous font pas forcément du bien, qui ont un effet immédiat, un peu de plaisir, mais en fait, on en ressort de là, on se sent souvent un peu, je sais pas, il y a quelque chose de. Alors qu'en forêt, on y va, mais on est porté par quelque chose, on est
Ah ouais, immédiatement.
Chose, voilà. Et donc, en ce moment, c'est aussi, je suis en train de suivre une formation au Shinrin Yoku, qui est une pratique japonaise, qui est en fait, ils font ce qu'on appelle des bains de forêt là-bas. Donc, c'est-à-dire, il y a même des centres dédiés à ça, où il y a eu des études faites par un scientifique japonais depuis 1980 là-dessus, sur tous les bienfaits de ces thérapies en forêt, qui diminuent le taux de cortisol, l'anxiété, la dépression, le stress. Bon, il y a pas mal de données très intéressantes. Et donc ça, c'est des petites choses, mais qui maintiennent à l'échelle d'une semaine, ça change beaucoup de choses. Après, bon, c'est aussi de la musique. À l'époque, j'écoutais de la musique électronique, de la techno, ces trucs un peu violents qui activent en vous des choses plus, on va dire, agressives, quoi. En tout cas, pour un homme. Bah là, c'est des musiques plus douces, des musiques du monde, des musiques qui du coup nous font voyager, des, je sais pas, des chants de mantra, parfois de la musique classique, magnifique, parfois de la musique électronique, ça peut arriver encore, mais c'est voilà, c'est donc plein, c'est plein de petites choses comme ça. C'est après, c'est une alimentation hyper saine, voilà, et pour autant une vie sociale, des amis. Bon, après, on a pas mal de copains qui sont dans ces ouais, qui ont des parcours un peu similaires, mais donc il y a évidemment une vie sociale. L'idée, c'est pas de vivre seul, reclus chez soi, dans l'austérité. Voilà, c'est de, voilà, parfois des petites fêtes, ça arrive de temps en temps. Il y a voilà, une vie, juste une vie équilibrée. Et puis le boulot, donc ces différents projets là que moi je suis en train de monter. Et puis après, en fait, pour être très, dire des choses, non, mais que, ouais. Que je peux pas, en fait, sur ces sujets. C'est marrant parce que c'est comme quoi voilà, je scinde encore là en tout cas ma vie professionnelle un peu en deux, c'est-à-dire que je fais de l'immobilier aussi de côté parce que je veux aussi pas mettre trop de pression financière là sur ces différentes choses que je suis en train de lancer. Bon, on le sait, écrire un livre, enfin c'est pas des choses qui sont très rémunératrices, quoi, voilà. Et donc aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, juste peut-être quand les choses se seront développées, ce sera peut-être différent, mais aujourd'hui voilà, aujourd'hui je fais comme ça, voilà. Parce que et l'immobilier, je le fais d'une manière, et ça me plaît beaucoup. Je le fais d'une manière, j'allais dire alimentaire, mais c'est même pas vrai, parce qu'en fait ça me plaît bien, parce que ça active d'autres aspects, plus justement ces aspects plus masculins de l'action, de la de voilà, et puis surtout de la perspective financière, quoi, qui est quelque chose aussi de motivant, d'essentiel, d'important. Et ça, je le dis dans la conférence sur le business, je parle de l'argent, qui est un vrai thème sur lequel aujourd'hui je pense qu'il faut on a tous un peu à évoluer, quoi. C'est-à-dire que aussi bien ceux qui méprisent l'argent dans les milieux alternatifs et spirituels, je pense que c'est une erreur, qu'aussi bien ceux qui la surévaluent comme dans les milieux matérialistes, c'est une autre erreur. Donc en fait, je pense que finalement, une bonne partie de la planète est dans l'erreur par rapport à l'argent. Il y a aussi là encore une voie du milieu à trouver.
Et donc, tu le vois comment, l'argent, aujourd'hui?
Bah bon, j'apprends rien à personne. On parle aujourd'hui beaucoup, il y a des courants là-dessus qui disent que l'argent est une énergie neutre, et que finalement, tout dépend ce qu'on fait de l'argent. Et c'est comme finalement tout, comme le pouvoir, comme la beauté. Finalement, on voit bien que l'argent peut servir aussi bien la vertu, des choses positives, la construction, le lien humain, l'aide. Ça veut pas dire tout donner, hein, je dis pas ça, mais ça veut dire voilà, être dans des projets. Je parlais donc voilà de cette voie entrepreneuriale aujourd'hui, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs qui tout simplement ont des projets qui feront du bien à la planète, quoi. Il y en a qui polluent et il y en a qui font du bien à la planète. C'est voilà, et je pense que là-dessus, ça va être un peu la division des eaux là. Enfin, le 21e siècle, ceux qui polluent vont pas, à mon avis, durer longtemps, et s'ils durent, ils seront pas très heureux. Donc de toute façon, parce que ils vont se sentir mal dans notre société. Donc je pense qu'en fait, si ça qui est beau, c'est qu'il y a pas vraiment de choix. Donc l'argent, voilà, et l'argent peut aussi servir le contrôle, l'emprise, la destruction. Donc en fait, c'est pas tellement l'argent le sujet. C'est ça le problème. On diabolise parfois, on diabolise l'argent, ou on le survalorise. En fait, non, c'est aussi qui on est à l'intérieur de nous, et comment cet argent on l'a gagné, qu'est-ce qu'on va en faire, comment. Et ça, bah, ça encore, ça nous renvoie un peu au travail intérieur, quoi. Y a pas, il faut un peu quand même, pour justement pas être dans ces agissements néfastes avec l'argent, qui est un peu comme qui est un pouvoir, qui est qui est une arme. Donc, si elle est usée pour le mal, elle peut faire mal, quoi. L'argent, ça peut être en fait assez
Ouais, c'est clair.
Comme ça peut faire énormément de bien, quoi. C'est ça qui est...
Mais tu vois, la semaine dernière, j'étais dans une réunion d'entrepreneurs là tôt le matin, et vraiment c'était du réseau, de l'entraide. Et, voilà. Et un des entrepreneurs se lève et dit il faut vraiment utiliser la force du réseau, se recommander, et voilà, hein, grâce à vous, grâce aux recommandations, moi je suis passé de 4 employés à 10, et parce que aujourd'hui on est 10, il y a, je sais plus les chiffres, mais il y a tant de mon chiffre d'affaires que je peux investir dans du soutien pour l'écologie, pour des associations locales, pour des clubs sportifs, enfin peu importe, tu vois, mais il y a une partie, en fait. Et il disait, à 4, je pouvais pas le faire, à 10, ça me donne les moyens de le faire. Et je trouvais que c'était beau, en fait, tu vois, il pensait pas que à grandir son entreprise, et voilà, mais en me disant, mais si je grandis mon entreprise, je peux contribuer à faire quelque chose de beau, quoi. Et je disais, ah, putain. Ouais, on y est, ouais. Quoi. Mais jeune, hein, tu vois, je pense qu'il a 35 ans, quoi.
Ouais.
C'est cool, quoi.
Bah oui, parce que parfois, on diabolise un peu l'entreprise, mais il faut se rappeler que l'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Alors, maintenant, ouais. C'est vrai que quand c'est devenu des grandes corporations et qu'en plus, parfois, elles font des milliards de bénéfices et en plus, en faisant des milliards de bénéfices, elles polluent la planète. Je ne cite aucune entreprise, mais je peux comprendre qu'il y ait une sorte que des gens s'insurgent, quoi. Et en même temps, bon, ça choquait personne jusqu'il y a 10 ans, quoi. Donc, en fait, il faut aussi laisser le temps. On peut pas, quand les gens disent, ouais, il faut tout arrêter. Oui, enfin, il faut aussi être un peu sage. C'est-à-dire que des entreprises qui, justement, ont des dizaines de milliers d'employés, font des milliards, OK, peut-être pas dans la bonne direction, elles polluent, etc. Ben, il faut aussi les laisser faire leur transition. Voilà.
Après, ouais, et puis tu vois, d'un autre côté, ces entreprises, eh ben, elles permettent, hein, je sais pas, des milliers de familles de manger, quoi.
Donc, et voilà, mais merci de le rappeler, merci de le rappeler. Et quoi qu'on en dise, oui, elles polluent d'un côté, et c'est pas bien, il va falloir que ça évolue, d'accord. Mais en attendant, effectivement, voilà, elles nourrissent. Donc, je comprends pas toujours quand on les diabolise, quoi. Je veux dire, je veux bien, mais... Je vois, voilà.
Oui, mais on est d'accord tous les deux qu'il faut que ça change, quoi.
Faut avoir des regards un peu objectifs, quoi.
Ouais, c'est ça.
Voilà, faut voir un peu l'ensemble du sujet, quoi. Et puis surtout être un peu, là où je dis qu'il faut être sage, c'est que quand on dit, ouais, il faut, enfin, je sais pas, les gens, parfois les anarchistes, quoi, il faudrait tout arrêter. Bah, oui et non, parce qu'en fait, on se rend pas compte que si, par exemple, cette entreprise, on la fermait, pour être très caricatural, une entreprise comme ça, bah, on se rend pas compte, en fait, du mal qu'on ferait à tous les individus qui, comme tu viens de le rappeler, en vivent. Donc en fait, voilà.
Mais alors il y a ça, puis après il y a tu vois la prestation ou le produit ou voilà que l'entreprise elle fournit. Enfin c'est tout un pan de l'économie. Enfin il y a les employés, les salariés, mais il y a ceux qui sont avant, il y a ceux qui sont après, quoi. Les fournisseurs et les clients et le marché. Enfin,
voilà tout un système.
Il y a oui ça doit changer, mais. Tout est pas blanc ou tout noir, quoi.
Voilà. Et le système, il a vraiment beaucoup de choses à changer, mais il est pas non plus, désastreux, je veux dire. Voilà, les gens.
Mais il doit changer organiquement, tu vois. C'est, voilà, je pense pas que c'est en allant dans l'autre
et
extrême,
progressivement, voilà. Et progressivement, ouais. Il doit se réinventer progressivement, pas dans la brutalité. Il doit, effectivement, en s'alignant, ça, de toute façon, avec l'impératif écologique. Qui ne nous laisse voilà qui nous donne en tout cas un cadre dans le temps quoi qui apparemment donc ces mutations c'est pour ça que là elles vont se faire de manière peut-être qu'elles vont se faire de manière un peu brutale en fait j'en sais rien
on ne sait pas on verra bien quoi peut-être il faudra tu vois peut-être il faudra pour ce changement là il faudra peut-être aller dans un extrême comme si je fais un parallèle je sais pas avec les femmes qui ont besoin de revendiquer pour prendre leur place ou pour un nouvel équilibre quoi et ouais. de passer par un extrême pour retrouver un milieu je sais pas enfin tu vois
totalement
mais on verra bien quoi de toute façon c'est un des chemins
exactement
Romain qu'est-ce que t'as envie de dire au monde là maintenant pour terminer t'as envie de laisser quoi
quand même j'ai quand même envie de, tu vois c'est au moment où tu dis ça, il y a le terme voix intérieure qui me vient, voix VOIX et donc voix VOIE, parce qu'au fond c'est quand même ça le but de la vie et on l'oublie. Alors je sais que quand je dis ça, je m'adresse à qu'une partie de la population parce que je sais que quand on vit dans une vie très, on va dire des salaires très bas. Quand on vit à l'usine, je sais qu'on peut pas vraiment forcément se poser ces questions-là. Mais sauf que je pense que c'est d'abord en touchant les personnes qui ont un peu la place et un peu la possibilité de faire changer les choses, que finalement il y aura un effet domino et que à tous les niveaux de la société, dans un certain laps de temps, ça améliorera finalement la vie de chacun et j'allais dire qualité de vie, mais en fait le terme qui vient c'est le sens que chacun donne à sa vie, parce que je pense que pour améliorer, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé de la qualité de vie, et pour arriver à une telle qualité de vie finalement avec toute cette matérialité qui nous entoure et qui est super, hein, moi je veux dire j'aime le confort aussi, hein, ça aussi quoi, qu'on soit clair, mais c'est juste à un moment donné l'excès quoi, c'est comme l'accumulation, je veux dire on n'a pas besoin à un moment donné de, il y a des choses on n'en a pas besoin, ça c'est pas vrai, je veux dire on peut avoir une très belle télé, même un très beau plasma, mais on n'a pas besoin du plus grand écran et de le changer tous les 2 ans parce qu'il y en a encore un peu plus grand. Là, il y a un moment, il y a un stade où il faut se rendre compte qu'on est peut-être un peu dans un comportement un peu névrotique.
Ouais.
Et que cette énergie, on pourrait peut-être, en fait, la réorienter vers d'autres choses. Donc, en fait, c'est ça, c'est écouter sa voix intérieure, VOX qui nous chuchote tout le temps. Moi, parce qu'en fait, je parle de vécu, hein, elle me chuchotait tout le temps, souvent, je la réprimais voilà entre 20 et 30 voilà elle me chotait quand j'étais dans cette euphorie dans cette je sais pas dans cette folie mais enfin un peu quand même dans cette folie humaine dans laquelle je vivais avant ces excès je l'écoutais pas cette voix intérieure et du coup je me suis trompé de voix VOIE ou en tout cas partiellement trompé de voix et ça a mal fini et ça aurait pu beaucoup plus mal finir. J'ai eu la chance d'être entouré par une famille, des amis, mais j'ai eu une vraie crise à 32 ans, donc je suis quand même, il y a quand même un truc, un endroit où il y a quand même un traumatisme hein, de ça et là c'est voilà, j'ai une envie de, je sais que beaucoup de gens sont dans ces circuits, dans ces cercles.
Oui, ils sont dans le c'est le hamster.
Je pense à la roue du hamster, voilà. Ouais. Évidemment, et je sais à quel point c'est difficile d'en sortir. Et moi, pour en sortir, il m'a fallu une énorme crise. Et j'ai fait un grand écart. Je suis parti en Amazonie du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, la société, ce qui est la chance voilà, du 21e siècle, c'est qu'on peut faire des pas de côté. On n'est pas obligé de faire des grands écarts. Et ces pas de côté peuvent nous préserver. Voilà, et c'est pour ça que je veux dédier, voilà, c'est à ça que je dédie ce livre, les cercles d'hommes, là, qui vont commencer l'année prochaine, les retraites que je prépare également, les conférences sur ce thème de business. Voilà, comme d'autres, j'essaie de me mettre, voilà, un peu au service. Alors, encore une fois, je me sers moi-même aussi, hein, je veux pas me faire passer pour ce que je suis, mais voilà, en tout cas, de ces causes, de cette évolution de la société, de ce progrès, en fait, parce que pour moi, c'est ça, le progrès. Il est là aujourd'hui au 21e siècle.
Waouh, merci beaucoup.
Merci à toi, Valérie. C'est toujours vraiment des moments.
Ouais, je pourrais parler avec toi pendant des heures. Quoi.
Ouais.
j'ai encore 10 000 questions, quoi.
Ouais,
bon, voilà, quoi. C'est merci, ouais, de tout cœur d'avoir pris le temps, quoi.
Eh ben, écoute, je t'en prie.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.